je m'appelle Quentin Roulant. Dans la vie, je suis professeur de PS dans un collège. C'est la troisième année que j'enseigne. Côté de ça, donc, vu que j'ai pas mal de temps en étant professeur, j'ai décidé de consacrer pas mal d'énergie à militer un petit peu dans plusieurs causes qui me tiennent à cœur, notamment dans l'écologie. Donc, je suis militant chez Greenpeace depuis 2 ans. Et en parallèle, j'étais proche de certains mouvements citoyens un peu révolutionnaires qui essaient un petit peu de repenser la démocratie de nos jours. Et j'avais mis ça un petit peu de côté depuis que j'étais à Greenpeace, parce que du coup, je suis coordinateur d'un groupe local sur Paris, donc ce qui demande beaucoup de temps et d'investissement. Mais avec le mouvement actuel, mouvement social qu'il y a en France depuis le mois de novembre, j'ai pas pu faire autrement que m'y intéresser. Et du coup, depuis, je suis un peu sur deux fronts et je suis tous les samedis à Paris à manifester. J'ai participé à pas mal de conférences et d'ateliers, de débats sur le référendum d'initiative citoyenne. Et d'ailleurs, ce soir, j'organise dans ma ville une table ronde sur le sujet. Donc, j'ai passé pas mal de jours là à tracter sur les marchés, à la gare, pour essayer de faire émerger un peu la question de manière locale. Donc voilà un petit peu comment se structure ma vie. Après, j'essaie quand même de voir pas mal mes amis, ma famille. C'est des choses qui ont beaucoup d'importance pour moi. Je fais pas mal de sport, étant professeur de PS et ancien rugbyman, où j'ai joué dans un club à assez bon niveau, où c'était très, très intense. Donc voilà, beaucoup de sport et je prépare mon premier triathlon pour mi-mai. Et après, d'où je viens, je suis originaire du Val d'Oise. J'ai grandi à Luzarches, à Domont, enfin j'habitais à Sarcelles, vraiment dans le coin. Et voilà, deux parents. Donc j'ai des parents séparés depuis que j'ai 18 mois. Et donc j'ai pas mal bougé. J'ai du coup une famille composée, recomposée, décomposée, mais du coup qui est assez riche humainement.
Du coup, ça a été quoi ton parcours pour en arriver là?
Du coup, parcours scolaire, j'ai fait école primaire, collège, près de chez moi. J'ai toujours beaucoup aimé l'école. Enfin, ça m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai été particulièrement pénible toute ma scolarité, mais ça m'a beaucoup intéressé. J'ai eu donc mon bac en 2007. Je ne savais pas trop quoi faire au début. J'étais parti pour faire au début une école de commerce, et en fait la conseillère d'orientation m'a bien orienté pour le coup, en me disant que non, fallait que je travaille dans le sport parce que j'étais vraiment habité par cette passion. Et du coup j'ai décidé de faire STAPS en me disant que je ferais bien prof de PS. Bien réussi ma première année. Deuxième année, je me suis blessé rapidement. Du coup, j'ai une blessure à la main, je ne pouvais pas écrire, pas pratiquer. Du coup, je ne suis pas allé en cours pendant 3 semaines et j'ai découvert ce qu'on appelle donc sortir, en fait. Du coup, ça a été un petit peu une révélation. Donc, j'ai un petit peu raté ma deuxième année. Et en fait, je me suis également rendu compte qu'à ce moment-là, je ne voulais pas être professeur de PS parce que je ne voulais pas en fait être confronté à un public à qui on imposait d'être là. Donc je m'étais dit, parce que j'avais fait un stage qui s'était mal passé, donc je me suis dit dans la démarche, je voudrais plus transmettre des choses, mais à des gens qui viennent et qui sont volontaires. Du coup, je me suis réorienté dans un autre parcours pour faire travailler dans l'entraînement sportif, donc en spécialité rugby et préparation physique. Donc j'ai eu ma licence. Et au final, je me suis rendu compte qu'avec juste une licence, en fait, on n'avait rien. Donc j'ai commencé à travailler comme assistant d'éducation dans des établissements scolaires. J'ai beaucoup joué au rugby, entraîné, je me suis beaucoup investi là-dedans. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'aimais quand même beaucoup travailler avec les jeunes, que ce soit au collège ou au rugby. À un moment, j'ai un petit peu saturé au niveau rugby, parce que c'est un univers déjà très masculin, un petit peu c'est la bonne camaraderie, mais c'est pas quelque chose qui stimule toujours intellectuellement. Et du coup, j'ai eu envie de prendre un nouveau départ. Et donc, j'ai hésité entre faire un tour du monde de sensibilisation de rugby avec un ami ou reprendre mes études. Pour faire prof, donc pour passer le concours et passer un master et le concours de prof de PS. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, je suis parti à Caen. J'ai passé mon master. De me couper, ça m'a permis en fait de m'intéresser un peu plus en fait au monde dans lequel je vis. À force de regarder des vidéos, des reportages. J'ai commencé un petit peu à me réveiller de manière citoyenne. Je me suis rapproché d'un mouvement révolutionnaire qui avait une antenne en Normandie. Enfin, j'ai développé une antenne en Normandie de ce mouvement-là. J'étais un petit peu déçu en fait par le manque de structure du mouvement. Et du coup, je me suis dit, vu que je débutais dans le militantisme, que ça pouvait être intéressant aussi de me mettre dans une structure bien organisée. Et donc, c'est pour ça que je me suis rapproché de Greenpeace. Et donc, je me suis investi très rapidement. Je suis devenu coordinateur du groupe local. Voilà, du coup, là, ça fait 2 ans. J'arrête en septembre pour justement avoir plus de temps pour revenir à quelque chose de plus politique. Et puis, pour pouvoir, comment dire, choisir aussi les moments et les causes dans lesquelles je m'investis au sein de Greenpeace, parce que quand on est coordinateur, c'est vraiment il y a des exigences, on est obligé de faire des choses. Et je suis un peu plus là dans une démarche où je me dis que je voudrais pouvoir sélectionner et donner du temps, mais quand j'en ai. Parce que j'ai une vie du coup, enfin, qui parfois j'essaie de vivre au maximum. Je m'efforce à vivre dans le moment présent, à être vraiment paisible, mais en fait quand on fait tellement de choses, c'est compliqué. Donc j'aspire un peu à me recentrer et à sélectionner l'énergie que je peux mettre dans des causes.
En ce moment, donc, t'habites où? Est-ce que t'habites seul, en colocation, en famille?
Alors j'habite donc dans un petit appartement à Aubonne, qui est donc une ville moyenne du Val d'Oise. J'habite seul, je suis célibataire depuis trop longtemps. Non, mais je suis bien, j'ai beaucoup vécu en colocation, et alors c'est très enrichissant humainement, mais au bout d'un moment, voilà, j'ai aspiré à quelque chose enfin, d'être un peu plus tranquille, parce que du coup j'ai un mode de vie, un mode de consommation aussi assez particulier, qui fait que bah, voilà, quand on vit avec quelqu'un qui ne partage pas ces valeurs-là ou enfin, ce mode de vie, ça peut des fois être un peu pesant, et aussi pour moi, mais pour la personne. Donc, la dernière coloc que j'ai fait, c'était à Ermont, juste à côté, avec un ami qui a eu le concours la même année que moi, à qui j'ai joué au rugby, enfin, quelqu'un que j'appréciais énormément. Mais voilà, je voyais bien que même moi, j'étais un peu trop exigeant, et du coup, voilà, je pense que c'est mieux que je vive seul, et puis je ferai des efforts le jour où j'aurai rencontré personne pour vivre avec moi.
Maintenant, au niveau de notre génération, ça a été quoi tes références culturelles? Donc, que ce soit artistes, films, dessins animés, musique et tout ça.
Alors, mes premières références a été donc, bah, comme beaucoup, les Walt Disney. Avec le premier Walt Disney que j'ai vraiment regardé beaucoup, c'est La Belle et le Clochard, que j'ai regardé à nouveau récemment, que j'avais pas vu depuis l'enfance, et j'en avais les larmes aux yeux de le revoir. C'était vraiment top. Et ouais, non, j'ai beaucoup regardé de Walt Disney étant petit. La Belle et la Bête est mon préféré. Le Roi Lion, Merlin l'Enchanteur, toutes ces choses, j'ai bercé là-dedans. Après, au niveau film, donc je suis quelqu'un très cinéphile, enfin, pas tout type de cinéma, mais on va dire qu'il y a des films que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup touché et que j'ai tendance à regarder de manière assez fréquente. Et donc dans ces films, il y a Braveheart, donc voilà, avec l'insurrection d'un peuple face à l'oppression, Gladiator, Willow, Robin des Bois, Prince des voleurs, Le dernier des Mohicans. Voilà, ça je crois que c'est vraiment le lot de films que j'ai regardé, re-regardé, regardé. Donc je connais les dialogues par cœur, j'adore les musiques, je suis très très fan des musiques de films. Et après, un peu plus tard, j'ai développé, voilà, une passion pour Le Seigneur des Anneaux, les films, les bouquins et tout cet univers-là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bercé. Et c'est récemment que j'ai d'ailleurs mis le doigt en fait sur qu'est-ce qui faisait que j'ai autant apprécié Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait une petite analyse, mais en fait, c'est que c'est tout simplement en fait une lutte du bien contre le mal, une lutte des gens qui vivent en connexion avec la nature face à le mal, l'industrie, l'anneau qui représente le pouvoir, l'argent. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est pas pour rien en fait que j'ai adoré cette trilogie, cette saga. Alors après, musicalement, j'ai donc une famille qui écoute beaucoup de musique. J'ai un oncle qui est musicien. Donc j'ai bercé pas mal dans les groupes pop-rock des années 80-90, donc à savoir Genesis, Police, les Cranberries, Toto, les Pink Floyd que j'ai découvert après, mais dont je suis vraiment un grand, grand fan, et beaucoup de chansons françaises. Donc depuis que je suis tout petit, je chante du Renaud à longueur de journée, Mylène Farmer que je vais voir en concert au mois de juin, Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, Francis Cabrel, voilà, c'est des artistes qui m'ont beaucoup, beaucoup touché.
Et ça, c'est tes parents qui écoutaient ça.
Ouais, c'est essentiellement mes parents, enfin ma mère et mon beau-père, parce que mon père est plus classique. Et alors j'écoute maintenant du classique, je suis venu au classique par le biais des musiques de films. Et voilà, j'écoute maintenant beaucoup de classiques et je m'y intéresse beaucoup. Et c'est vraiment une très très belle musique, très apaisante. Et voilà, j'aime beaucoup.
Tu m'as fait réaliser là, dans ta réponse que je demande jamais si il y a des livres qui ont marqué l'enfance.
Ouais.
Genre, c'est fou ça. Je vais rajouter. T'as des
Ouais.
livres, donc Le Seigneur des Anneaux.
Alors, ouais. Alors le livre, en fait, ouais. Il y a Le Seigneur des Anneaux qui a marqué donc plus mon adolescence. Après, en fait, j'ai pas lu de mon année de première jusqu'à ce que justement je reprenne mes études. Ça a été le déclic. Et j'ai en fait, le premier bouquin que j'ai relu, c'est Vendredi ou la vie sauvage, que j'avais étudié au collège, avec cette idée de vie un peu, voilà, retour à une vie très très simple. Et en fait, depuis, bah, je me suis vraiment découvert une passion pour la lecture. Et alors, j'ai pas énormément de temps pour lire, mais dans les bouquins que j'ai lu donc 1984 de George Orwell qui m'a vraiment bousculé. J'ai lu donc la sobriété heureuse de Pierre Rabhi aussi, qui personnellement m'a permis d'avancer. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, les accords Toltec. Ça, c'est voilà des lectures un peu plus spirituelles. Récemment, j'ai lu Sapiens. Qui aussi m'a appris énormément de choses. En fait, voilà, j'essaie de, vu que j'ai un gros retard en termes de littérature, que chaque lecture m'apporte vraiment quelque chose dans ma façon de comprendre le monde. Donc voilà, c'est un peu les livres. Enfin, tu pourras jeter un coup d'œil à la bibliothèque, qui n'est pas très grande, mais voilà, chaque livre a son importance.
Et quand tu étais enfant, est-ce que tu as le souvenir d'un livre qui t'aurait marqué?
Un roman, non, je crois pas spécialement. Après, il y a des livres que j'étais abonné. Ma mère était professeure des écoles, mon beau-père aussi, donc mon père prof. Et donc, il nous faisait la lecture, on avait des albums, enfin des petits livres qu'on recevait toutes les semaines. Et voilà, j'avais ce genre de lecture, mais
Est-ce que c'était les J'aime lire?
non.
Non,
Non, c'était
ok.
pas les J'aime lire. Non, non, c'était des ouvrages qu'on commandait, je sais plus quel billet, mais... Voilà, et des livres que j'ai retrouvés récemment et que j'ai relus aussi avec beaucoup de plaisir.
Selon toi, quels sont les héros de notre génération?
Alors, c'est une question qui m'a un peu posé souci, enfin qui me pose un peu souci. C'est peut-être la définition du terme héros qui me pose problème. Parce qu'en fait, je n'en trouve pas spécialement. Enfin, moi, s'il devait y avoir des héros, alors, ça dépend, faut peut-être que c'est des héros fictifs ou des vrais héros.
Ça peut être les deux. Par exemple, hier, la fille m'a répondu Aladdin, parce que pour elle, ça représentait quelque chose de fort. Puis après, il y a des gens qui m'ont répondu Zidane, d'autres Obama.
D'accord. Alors du coup, fictif, moi je pense que le héros, il y a deux héros. Il y a donc Nathanael, c'est dans Le Dernier des Mohicans, qui est voilà, un Indien qui se bat pour un amour. Donc voilà, c'était le côté fleur bleue un peu que j'ai, qui m'a touché. Sinon, c'est voilà, William Wallace, pour moi, dans Braveheart, qui est la personne qui mène une révolte, mène un peuple à la liberté. Ça, c'est. Je me rends compte maintenant aussi pourquoi est-ce que j'ai bien aimé ce héros. Et après, sinon. Ça serait plus ça va, ou plus je me dis le héros de ma génération, mais pas 89, mais plus de notre temps, ça serait plus des personnes comme Gandhi ou Martin Luther King qui, par l'idée de la lutte non violente, ont apporté quelque chose pour moi qui est fondamental. Et voilà, donc j'essaie un petit peu de m'inspirer, notamment récemment, j'ai fait une manif gilet jaune qui était assez violente, où ça a un petit peu venu en. Enfin, c'est un. Un petit peu venu en confrontation avec ma représentation de la lutte. Je me suis fait une semaine de conférences sur la lutte non violente, et notamment un expert sur Gandhi. Et ouais, plus ça va, plus je me dis que c'est le moyen le plus pérenne et le plus stable en fait de changer les choses.
C'était quoi tes rêves d'enfant?
Alors, oh, il y en a eu plein. Premier rêve d'enfant qui est assez particulier, c'était d'avoir des enfants. Depuis que je suis tout petit, quand j'étais petit, je voulais 7 enfants. Voilà. Et je voulais un château. Voilà, c'était les rêves d'enfant. J'ai rêvé de devenir. Donc, quand j'étais tout petit, je voulais être pédiatre. J'avais vraiment cette. Alors, je peux l'expliquer, je peux rentrer un peu dans le détail. J'ai eu une enfance un peu chaotique, on va dire, avec un papa qui m'a donné beaucoup d'amour, mais qui avait une manière de la donner assez destructrice. Ce qui fait que j'ai rapidement, en fait, eu envie, moi, de devenir un papa autre. Et du coup, bah, voilà, j'avais vraiment cette envie d'avoir des enfants. J'ai toujours adoré les enfants. J'ai eu des petits frères, donc quand j'avais 10 ans, qui sont nés. Donc quand j'avais 10 ans, donc je me suis beaucoup occupé. J'étais vraiment, enfin, gaga complètement. Donc voilà, c'était mon rêve de petit. Ouais, c'était de devenir papa, d'avoir plein d'enfants. Et puis j'ai toujours été dans ce monde fantastique, devenir un héros de ces films-là. Enfin voilà. Chevaleresque, j'ai toujours là le côté chevaleresque, noblesse m'a toujours habité. Donc et puis voilà, et puis rapidement aussi dans le sport, il y avait un petit peu ce rêve de devenir sportif de haut niveau. Chose qui maintenant, je suis vraiment à l'opposé de ça, de tout ce qui implique le sport de haut niveau.
Est-ce que tu avais des craintes?
Ouais, j'ai eu longtemps une grande crainte, c'est la crainte de la mort. Je me rappelle que petit, souvent je réfléchissais à la mort, ça m'angoissait beaucoup, et c'était notamment, et si je poussais la réflexion jusque-là, j'étais vraiment pas bien, c'était sur la possibilité du néant, en fait, du rien après la mort, et ça me, quand j'étais petit, ouais, ça me posait souci, et plus j'ai grandi, et notamment récemment, plus je suis tranquille par rapport à ça, vraiment, mais ouais, c'était ma crainte petit, c'est l'angoisse, c'est ça la question, crainte ou angoisse?
Crainte,
Crainte.
mais oui, ça peut être angoisse aussi.
Et après, ouais, depuis tout petit, enfin, c'est pas une crainte, mais j'ai toujours été très, très, du coup, sensible et touché par le malheur des enfants. Et c'est souvent dans ma vie où, quand j'ai été témoin, voilà, de situations où je vois des enfants malheureux, où là, ça vient vraiment bloquer et ça me met très mal, ouais.
C'est quoi pour toi être adulte?
Alors, être adulte, pour moi, en fait, je donnerais deux réponses. Déjà, je pense qu'on n'est pas adulte en tout point. C'est qu'on devient adulte dans certains domaines de sa vie. Par exemple, je pense que d'un point de vue citoyen, je suis maintenant bien mûr. Par contre, d'un point de vue amoureux, je suis encore un adolescent, je pense. Donc, je pense que voilà, il y a vraiment déjà cette idée de domaine où on devient adulte dans certains domaines, pas toujours en même temps. Après, derrière la notion d'adulte, pour moi, il y a la notion un petit peu d'autonomie, être capable de pouvoir vivre indépendamment de ses parents. Il y a la question aussi donc de responsabilité. Et moi, après ma définition aussi, je dirais que être adulte aussi, c'est commencer à se soucier plus des autres que de soi-même. Là, on rentre dans une démarche vraiment adulte.
Et comment tu vis le fait d'avoir bientôt 30 ans?
Je le vis très très bien. En fait, je vois ça. Ça fait longtemps que j'attends ça pour faire une fête. Parce que du coup, vu que, bah, comme j'ai dit, j'ai une famille un peu recomposée et j'ai pas mal de cercles d'amis du coup différents avec bah, du coup les amis d'enfance, les amis de la fac, les amis de camp, les amis du rugby. Et en fait, c'est quelque chose aussi qui m'habite, c'est le côté fédérateur. J'ai toujours bien aimé rassembler les gens. Et du coup, ça fait longtemps que je me dis, oh, pour mes 30 ans, je ferai une grande fête où je rassemblerai tout le monde. Et donc voilà, le 11 mai, je fais une grande fête où je rassemble tout le monde.
Trop
Et
bien,
donc je suis trop content. Et
trop
donc là je
cool.
suis en pleine organisation. Enfin, tout est déjà organisé, mais je prépare ça tranquillement. Et ouais, c'est vraiment, ça me met en joie de pouvoir rassembler. Et donc il y aura cette fête, mon père, ma mère, mon beau-père, qui sont du coup trois personnes qui ont vécu ensemble, qui ne le sont plus du tout maintenant, et qui seront réunies avec voilà, des gens un peu de tout horizon. Et ça va vraiment être sympa.
Trop cool.
Ouais.
Est-ce que tes parents ils te prennent au sérieux et est-ce qu'ils te voient comme un adulte?
Oui, là-dessus, je pense vraiment. Enfin, j'ai eu une. Alors, ma mère m'a toujours soutenu. Enfin, je sais qu'elle a toujours été fière du garçon que j'étais, puis du jeune homme, puis de l'homme. Et mon père, il y a eu une période, toute la période justement où j'étais un peu dans le vague, où j'étais au rugby, où je faisais beaucoup la fête, où je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Et alors, depuis que je suis prof, déjà, c'était un gros soulagement. Et je pense que là aussi. Là, il m'a considéré du coup comme adulte. Et puis depuis, je m'investis vraiment. Enfin là, je sais qu'il est très fier, il me soutient énormément. Et d'ailleurs, finalement, il me soutient peut-être un peu plus que ma mère. Enfin, il se renseigne, il essaie de m'aiguiller, d'essayer de savoir dans quel domaine, quel moyen d'action pourrait être le plus efficace. Et alors, ma mère me soutient aussi, mais c'est un petit peu plus timide. Mais je pense aussi c'est question de où ils en sont dans leur vie. Et ma maman vient de se remarier à nouveau. Amoureuse, donc voilà, elle est aussi à mon avis dans cette dynamique-là.
Est-ce que tu sais ce qu'ils faisaient quand ils avaient 30 ans?
Oui. Alors mon père à 30 ans, ben, je crois que c'est à peu près le moment où il m'a eu en fait. Donc il était jeune papa de moi-même. J'avais un grand frère également, donc il n'est plus là, mais donc il avait déjà eu un. J'étais pas son premier, mais d'un premier mariage. Mon père a eu trois femmes. S'est marié trois fois, ma mère trois fois également. Et du coup, lui était jeune papa, donc professeur de PS, professeur de tennis. Et donc ça lui a pris beaucoup de temps. Enfin, je sais qu'il s'est énormément occupé de moi, m'a amené jouer en forêt, à faire des histoires, jouer avec mes petits soldats, mes petits Playmobil et tout. Donc il donnait beaucoup beaucoup de temps pour s'occuper de moi. Et ma maman à 30 ans, je crois qu'elle était dans une période pas très sympathique, parce que du coup elle a eu une enfance. Si la mienne a été un peu chaotique, la sienne a été catastrophique. Donc je crois qu'elle était un peu en phase de reconstruction. Et peu de temps après, mon petit frère et donc un autre petit frère est arrivé, et donc ça a été aussi un nouveau départ pour elle.
Comment tu vois l'avenir du monde?
Ah, alors là, il va falloir que je sois assez concis. Comment je vois l'avenir du monde? J'espère en fait, j'espère vraiment que le monde va évoluer dans le bon sens, parce que pour moi, alors comment dire, d'un point de vue écologique, pour moi, la situation est catastrophique. En termes de biodiversité, en termes de pollution de notre air, de notre terre, de notre eau. Pour moi, voilà, c'est vraiment catastrophique. Et malheureusement, je pense que les gens ne se rendent pas assez compte que si on ne change pas de manière drastique et profonde, on va vraiment à des catastrophes. Je ne parle pas spécialement de catastrophes climatiques, parce que je suis un peu, entre guillemets, pas climato-sceptique, mais. Je préfère, comment dire, m'atteler aux choses dont on est sûr. Donc, notre environnement est en grand péril, ça on en est sûr. Et voilà, je prends un exemple tout bête, mais les insectes sont vraiment en danger, notamment les abeilles. Si les abeilles viennent à disparaître ou en tout cas à devenir vraiment très rares, c'est tout l'écosystème qui s'effondre. Et ça, je pense que les gens ne comprennent pas vraiment. Comprennent quand il y a une cathédrale qui brûle, qu'il faut vite la reconstruire, mais les abeilles qui disparaissent, c'est plus compliqué. Donc je pense que l'avenir du monde, si d'un point de vue environnemental, on prend pas la mesure de la situation très rapidement, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Après, d'un point de vue social et économique, pour moi, en France, on a encore la chance d'être en. On va pas dire qu'on est en crise, mais on est en profond mal-être. Il y a vraiment une situation qui se dégrade. Et pareil, la situation, enfin, ce qui se passe, le mouvement social actuel et la manière dont se comportent les gens les uns envers les autres, enfin, montre que voilà, on arrive au terme d'un système, quoi, le système capitaliste dans lequel on est, qui pousse à l'individualisme, au détachement de la nature, enfin, toutes ces choses-là, on est vraiment arrivé au bout du cycle. Et d'ailleurs, il y a pas mal de théoriciens qui parlent d'effondrement du système. Et je pense que c'est pareil, si on ne se bouge pas, en fait, maintenant, pour essayer de reprendre un peu de contrôle politique et de pouvoir un peu prendre nos décisions, on va d'ici quelques années arriver à une crise, et les peuples vont se monter les uns contre les autres. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, de créer des faux problèmes, et où en fait, pour des raisons de religion, pour des raisons d'appartenance ethnique ou de pays, en fait, on se met des leurres et on croit que c'est ça les vrais problèmes, alors que le vrai problème est l'inégale répartition des richesses. Parce que beaucoup de ressources sont confisquées par une minorité et qui du coup bah, permettent pas à la majorité de vivre décemment. Donc en fait, je suis tout dans mon entourage, hein, on me dit que je suis utopiste, que je suis idéaliste. Alors moi, je réponds que par rapport à l'utopie, j'ai un nouvel argument qui m'a été donné par Étienne Chouard, qui est quelqu'un qui porte justement la nouvelle démocratie un petit peu depuis 10 ans, qui dit oui, bien sûr, c'est utopique, mais avant 1848, l'abolition de l'esclavage, c'était une utopie. On est quand même bien content qu'il y ait des gens qui étaient utopistes à l'époque. Donc voilà, c'est ce que je réponds. Et Pierre Rabhi aussi dit par rapport à ça que l'utopie n'est pas la chimère, mais le non-lieu de tous les possibles. Donc voilà, tant qu'on se dit que c'est une utopie, ça la reste. Et à partir du moment où on met de l'énergie dans un combat, bah, ça peut ne plus devenir une utopie. Donc voilà, moi je m'efforce à. Enfin, c'est pas que je m'efforce en fait, c'est que je suis profondément optimiste. Et je voilà de voir ce matin encore, j'étais sur le marché, donc à tracter, et d'avoir des gens qui te rendent des sourires, des enfants qui passent, je me dis voilà, on ne peut pas en fait ne pas être optimiste, on ne peut pas vouloir ne pas essayer de se battre pour offrir un monde meilleur aux enfants, pour permettre, voilà, quand je vais à Paris et que je vois tous ces gens qui vivent dans la rue, je me dis, enfin, comment, enfin, moi en tout cas, je jette pas la pierre aux autres, hein, je culpabilise personne, mais moi, c'est devenu existentiel en fait de consacrer une partie de ma vie à faire que ces gens-là puissent vivre mieux. Donc voilà, je vois le monde, j'espère mieux, mais je reste quand même un petit peu réaliste et j'envisage que la situation devienne vraiment très, très critique d'ici peu. Et notamment, enfin, il y a des, enfin voilà, quand, même d'un point de vue international, d'un point de vue géopolitique, de savoir qu'il y a des pays qui, enfin, qu'il y a plein de pays où une personne peut décider de balancer une bombe qui peut raser des régions entières. Enfin, je comprends pas comment l'humanité peut pas se rendre compte à quel point, mais c'est à l'opposé de la vie. Enfin, je pense pas qu'on est là pour ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me fait peur, certaines expériences qui sont faites pour, voilà, plutôt que d'essayer de réduire, de revoir notre mode de consommation, on va essayer de trouver des moyens de production d'énergie. Où là récemment, j'ai découvert qu'il y a un laboratoire qui essaie de créer donc pas une scission nucléaire, mais cette fois une fusion. Mais donc en fait, il y a des laboratoires, ça existe hein, dans le monde, où en fait on est en train de créer du plasma qui est donc de la matière encore plus chaude que le soleil. Donc on crée en fait des mini-soleils sur Terre, avec tout le magnétisme que ça implique. Enfin, et quand moi je me dis, mais en fait, il y a des accidents nucléaires dans les centrales, qu'est-ce qui se passe si on libère un soleil dans l'atmosphère? Enfin, et les gens justifient en disant que voilà, ça pourrait être une solution aux énergies fossiles, que voilà, alors qu'il y a des moteurs à énergie libre qui existent et qui sont tout simplement étouffés. Enfin, bon. Donc voilà, je suis un peu tiraillé entre on ne peut pas se permettre en fait d'être pessimiste parce que sinon bah autant on fait pas d'enfants, on creuse notre tombe et puis on va s'y loger. Et à côté de ça, il y a quand même pas mal de boulot et bon, il va falloir garder le sourire quoi.
Du coup, comment tu le vois, toi, ton avenir?
En fait, je me projette pas. Déjà, et je pense que finalement, là, en réfléchissant, je me dis que c'est une bonne chose. J'ai fait un peu de chemin par rapport à ça. Pour l'instant, voilà, je sais que j'ai envie de continuer à vivre en étant auprès des enfants parce que j'avais trouvé une phrase l'année dernière, perdue un peu dans mes pensées. En fait, quand je vais au travail, en fait, je puise en fait dans ma relation avec les enfants la force en fait de me battre à côté pour l'environnement, pour la démocratie. Je me vois continuer à être au contact des enfants parce que ça m'apporte énormément, vraiment. Enfin, il y a des moments où c'est juste, voilà, je fais le plein d'énergie pour la semaine, c'est bon, c'est parti, quoi. Il y a des moments qui sont tellement précieux. Je me vois continuer à militer. Après, il y a deux choses. Je sais que peut-être viendra un jour où je serai un petit peu fatigué, notamment des réactions des gens. Et ou peut-être que j'en arriverai à un mode de vie beaucoup plus minimaliste, ou peut-être que je partirai vivre de ma terre quelque part. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais qui serait pour moi une forme d'échec quand même, de renoncement. Et après, il y a autre chose. Donc, j'ai toujours cette idée, cette envie de vouloir fonder une famille. Après, voilà, pendant une période donc d'être tout le temps célibataire, ça me pesait et je me disais, mais ça se trouve, en fait, là, je vais avoir 30 ans, ça se trouve, pas avoir d'enfant, et ça m'angoissait. Et en fait, j'ai décidé un jour, à force de réfléchir, je me suis dit, voilà, je vais pas conditionner mon bonheur actuel pour quelque chose qui pourrait arriver. Je suis heureux dans ma vie, vraiment, j'ai une famille que j'aime, des amis que j'aime, et je pense qu'ils m'aiment, enfin oui, j'en suis sûr. J'ai une vie qui a un sens, ce que je fais vraiment, voilà, je sais que je suis dans le vrai. Enfin, en tout cas, ça a du sens pour moi. Et je pense faire des choses qui sont, si on se rapporte à une espèce d'idéal de valeur, des choses assez qui vont dans l'intérêt du bien commun. Donc voilà, je me dis, c'est bien, je suis heureux. Si je rencontre une femme et que je peux faire des enfants, là, ça sera le paroxysme du bonheur. Mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Et j'essaie de pas trop me projeter.
Se satisfaire de ce qu'on a déjà.
Ouais, exactement. Ben oui, mais c'est tellement précieux vivre voilà, voir, enfin, je sais pas, contempler la nature, voir des gens, des échanges, enfin, même des regards. Enfin, en fait, plus ça va, plus j'essaie de me nourrir en fait de ça. Et j'ai fait, enfin voilà, pareil, il y a pas mal de lectures que j'ai pu avoir qui amène bah ouais, à se satisfaire de vraiment des choses simples. En fait, ça leur donne de la valeur énormément.
Et du coup, ouais, t'as répondu à la question, donc tu veux des enfants?
Ouais, alors, le terme vouloir les enfants, enfin oui, si je peux avoir des enfants, si la situation se présente, oui, j'en voudrais. Après, je n'aurai pas des enfants coûte que coûte.
Ok.
Il est hors de question que je fasse des enfants pour moi, ou voilà, que je rencontre quelqu'un, ou ça va, et puis allez, je me dis de toute façon que je veux des enfants, c'est le moment. Non, ça c'est hors de question, mais alors vraiment, vraiment. Donc oui, j'aimerais avoir des enfants, mais je veux pas spécialement des enfants.
Ok. Et
Enfin,
du coup, dans, tu vois, dans un souci écologique, il y a plein de gens, enfin, il y a certaines personnes qui décident de ne pas faire d'enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
bah, j'ai eu une réponse. Alors, pendant un moment, ouais, je me disais, oui, c'est vrai, quel monde on va leur laisser. Mais en fait, vu que je suis quelqu'un de très optimiste, je me dis, mais non, 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 il faut faire des enfants et les éduquer à prendre le relais et à eux à se battre encore plus que nous et à être encore plus dans cette démarche de changement de paradigme. Et, donc, non, 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 il faut faire des enfants. Il faut faire des enfants, mais par contre, il faut derrière les éduquer dans le bon sens. Et voilà, après, c'est vrai que je me suis pas mal posé la question si le problème de la surpopulation était vraiment un problème. Et alors, actuellement, c'est pas le problème de surpopulation, c'est le fait que si on veut que toute la population vive à mode occidental, oui, là, il y a un gros problème de surpopulation. Sauf que, y a pas mal de pays où, en fait, les gens vivent en prenant juste ce dont ils ont besoin. Et c'est plutôt à l'humanité de se caler sur ce modèle-là. Et là, le problème de surpopulation, en fait, n'en est plus un. Après, voilà, je me dis que bon, faut quand même garder ça en tête que on est, comment dire, dans l'équilibre un peu du vivant. Nos progrès dans la science, dans la médecine, font qu'on a un petit peu contrecarrer aussi les plans, enfin l'ordre naturel des choses, qui fait que bah voilà, on se développe quand même, l'être humain se développe de plus en plus, et il y a peut-être un moment où ça devient problématique et il faudra réfléchir. Et je pense qu'il faut commencer à y réfléchir pour pas être pris au dépourvu. Mais voilà, actuellement l'argument de se dire on peut pas vivre, non, non, c'est que voilà, une personne, un Français ou une Française lambda, avec ce qu'elle consomme, les ressources qu'elle utilise, on peut faire vivre 20, 30, 40, 50 personnes dans certains pays, en vivant décemment. Hein, donc c'est plutôt le mode de consommation et le mode de vie qui est à revoir, je pense.
Est-ce que tu as une religion ou une démarche spirituelle?
Ah. Alors je me suis longtemps considéré comme athée. En fait, j'étais athée parce que ce qu'on fait, les religions du message divin me posaient vraiment souci. Et donc j'étais foncièrement athée et anti-religion. Et pareil, bah voilà, en devenant adulte, j'ai réfléchi. Et alors maintenant, j'ai du mal à penser que la vie, en fait, la nature, tout ça, est aussi complexe et magnifique par hasard. J'ai aucune réponse. Il y a une parole enfin, du groupe Mathmata. Qui dit, pardon, si Dieu existe, je n'en sais rien, je ne péterai jamais plus haut que le cul d'aucun de vos saints. Et j'aime bien cette phrase dans le sens, bah voilà, qui on peut être pour dire, parler au nom de Dieu. Moi, ça me fait rire, mes élèves qui disent tout le temps, dis oula, au nom de Dieu. Alors, je rentre un peu dedans là-dessus, je dis, mais au nom de Dieu, tu penses vraiment parler au nom de Dieu, si Dieu a créé tout ça, tu penses pouvoir t'exprimer en son nom? Alors, ça les bouscule un petit peu. Mais du coup, moi, voilà, j'ai du mal à croire que c'est le hasard. Plus ça va, plus je pense par contre qu'il y a, au niveau de la conscience, qu'on a différents degrés de conscience, différentes strates de conscience. J'ai du plus en plus de mal à me dire qu'après la mort, il n'y a rien, le néant complet. Vraiment, et depuis là, vraiment tout récemment, là, je m'y intéresse particulièrement. Et à la force je me suis mis moi aussi au yoga depuis quelques temps, j'essaie un petit peu de travailler sur la méditation, et j'ai fait des expériences un petit peu, comme on dit, de pleine conscience, où j'ai réussi à faire complètement le vide dans ma tête, à faire le silence dans ma tête, et où j'ai été dans un état un petit peu de transe. Et du coup, voilà, j'essaie de réfléchir à la question, et je sais pas, j'ai aucune réponse, mais... Pour moi, si j'ai ouais, une spiritualité, ça serait plus d'ordre un petit peu
sur ces différents niveaux de conscience. Et puis, par contre, voilà, je pense que mes élèves me demandent souvent, vous croyez, monsieur, vous êtes croyant? Je dis oui, je crois en plein de choses. Je crois en l'amour, je crois comment dire, en l'humanité, je crois en la nature, enfin, voilà. Et pour moi, il y a vraiment une force supérieure dans ce qui fait l'harmonie entre les espèces, les espèces animales, les espèces végétales. Quand on voit les interactions qu'il y a, enfin, je me dis c'est extraordinaire. Et derrière ça, il y a une intelligence. Alors, qui dit intelligence dit qu'est-ce que ça veut dire spécialement un plan? Je sais pas, mais pour moi, par contre, là, c'est trop. Je suis pas adulte là-dessus. Je suis pas adulte.
T'es encore en développement.
Ouais, je suis vraiment en construction. Ouais.
Quel est ton rapport à tout ce qui est notion d'amour, de couple, d'engagement, de mariage et tout ça?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon père s'est marié 3 fois, ma mère 3 fois. Donc, au niveau du mariage, bon, faut voir. Mais après, voilà, ma maman, du coup, s'est remariée au mois de juin dernier, j'ai été son témoin. Et c'est vrai que ma première réaction a été de me dire, ouais, enfin bon, se marier quand ça fait 3 fois qu'on se marie. Enfin, je t'aime à partir de ce moment jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quel est vraiment le sens qu'on met derrière ça? Après, je me suis dit, en fait, peu importe, du moment qu'ils s'aiment, et pour eux, voilà, le mariage, c'est plus un symbole, c'est l'union de 2 personnes. Est-ce qu'on a besoin de passer par là? Je sais pas. Je sais que, bah voilà, plus jeune, je me disais, oui, je me demanderai ma femme en mariage, on fera un beau mariage et tout. Maintenant, je sais pas. Je pense que ça, vraiment, ça se décidera avec si un jour j'ai une femme, enfin une personne avec qui que j'aime, on le décidera ensemble. Si elle le veut, il n'y aura aucun souci. Si elle ne le veut pas, il n'y aura aucun souci. Et puis, bah, si on n'est pas sûr, on construira ça ensemble, on verra. Après, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez fêtard. Et du coup, cette idée de célébrer un peu l'union, oui, ça, dans tous les cas, il y aura une fête, je pense. Mais après, l'amour, oui. Alors, par contre, l'amour, oui, ça, c'est quelque chose dans lequel. Auquel je crois. Alors l'amour homme-femme, j'y crois, mais alors pour moi là-dessus, j'ai pas été, je suis pas très 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 bien servi. J'ai eu une histoire d'amour dans ma vie qui a été très chaotique parce que c'était des personnes qui étaient déjà en couple et donc ça a été l'ascenseur émotionnel pendant 1 an. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup détruit et du coup je pense aussi que ça fait que j'ai un petit peu de mal à refaire confiance. Mais bon, ça fait longtemps, hein, donc maintenant je suis vraiment disposé à rencontrer quelqu'un, mais. Alors je ne sais pas si c'est le hasard, si c'est la malchance, si c'est moi qui ne fais pas les choses comme il faut, mais en tout cas, l'amour homme-femme, pour l'instant, je n'ai pas trop goûté. Après, voilà, l'amour entre amis, avec la famille, ça c'est quelque chose auquel je crois énormément. Et puis voilà, je pense que là-dedans, il y a quelque chose un peu divin. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'explique pas, qui est irrationnel au possible. Hein. On aime nos morts, donc quel est le, enfin, il n'y a aucune rationalité derrière, donc je pense que ouais, l'amour c'est quelque chose de très très puissant, quoi. Très puissant, et ça c'est quelque chose en lequel je crois. Ouais.
Est-ce que tes parents, tu es célibataire, mais tes parents ils sont quand même au courant justement de ta vie amoureuse, enfin, est-ce qu'ils s'impliquent dedans ou genre ils te mettent la pression, est-ce que tu veux des enfants, quand est-ce que tu nous présentes une fille, tout ça.
Alors ça, j'ai eu le droit à chaque fois que je vois mon père, à chaque fois. Hein. Alors tu viens avec ta copine? Non, papa, toujours pas. D'accord, et parce que mon père, du coup, c'est un papa poule, et du coup, il attend qu'une chose, c'est d'avoir des petits-enfants. Du coup, mon grand frère n'étant plus là, il n'aura pas par ce biais-là. Mes petits frères ne sont pas du tout là-dessus, donc voilà, je suis un peu le poulain là qu'il faut pousser. Et c'est vrai que ça, c'est par contre quelque chose où je me dis, alors voilà, par rapport à mon père, ça a été chaotique, mais maintenant, j'ai vraiment fait la paix avec tout ça et j'ai vraiment énormément d'amour et d'affection pour lui. Et c'est vrai que je me dis que ça serait un beau cadeau que de lui faire qu'il ait des petits-enfants. Parce que je sais que ça comblerait de bonheur. Après, j'en ferai pas exprès pour ça, mais ouais, là-dessus, il me pousse pas mal. Enfin, mais il me pousse, c'est toujours en rigolant, hein, mais je sais que ça, voilà, ça a de l'importance pour lui. Et ma mère aussi, s'est toujours préoccupée, hein, de ça. J'ai toujours parlé avec ma mère même de ma sexualité, enfin, très 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 jeune, pour justement qu'il n'y ait pas de questions, pas de point d'ombre. Aussi, j'ai une petite anecdote, alors je pense que c'est intéressant que je le dise, parce que j'ai eu voilà, mon premier rapport sexuel un petit peu tard, on va dire, par rapport à la norme, et du coup ma mère, à un moment, je sais plus, j'avais 18 ans, m'a quand même proposé d'aller voir une professionnelle de l'amour pour me décomplexer. C'était assez rigolo quand même. Enfin, elle m'a dit non, mais par contre,
tu sais, moi j'ai réfléchi, hein, mais si ça peut t'aider, moi je veux bien te payer une professionnelle, machin. Oh,
ça n'existe pas que dans les films.
Ah non, elle m'a vraiment dit ça, elle était dans la cuisine chez moi. Et... Oh, du coup, je trouve ça assez rigolo. Et puis j'en parle, voilà, sans complexe, mais j'ai trouvé ça. Du coup, voilà, ça montre que. Avec ma mère, on a toujours discuté. Et après avoir couché pour la première fois avec une fille, en partant de chez cette fille, j'ai appelé ma mère.
Ça y est,
c'est bon, maman, c'est bon. Donc, non, c'est assez rigolo. Et puis, ouais, j'ai toujours eu une relation là-dessus. Enfin, plus beaucoup discuté de tout ça. Mais voilà, ma mère aussi sait que voilà, je suis quelqu'un qui, au fond de moi, aimerait bien avoir vivre une histoire. Et du coup, elle me pose des questions. Elle me dit, hey, elle. Et... Donc, voilà.
On revient à notre génération. On entend beaucoup de nous, c'est qu'on a la bougeotte, qu'on est instable et tout ça. Est-ce que selon toi, c'est synonyme d'immaturité générale de notre génération ?
D'immaturité, je sais pas. Après, je pense que c'est pas que propre à notre génération, mais ce sentiment, oui, de toujours vouloir bouger. On peut l'interpréter comme en fait aussi une recherche du bonheur en se disant bah en fait pas réussir à voir que le bonheur on peut l'avoir peu importe où on est, juste dans les relations qu'on peut tisser et construire autour de soi, et de vouloir voilà, de se dire ouais mais quand je partirai là-bas ça va être bien, et ah, après je vais faire ceci. Donc il y a un petit peu une fuite en avant, du coup je dirais pas immaturité, mais c'est un peu une déconnexion, un peu avec un déracinement on va dire, et un désancrage par rapport à notre environnement. Et c'est vrai que par rapport au voyage, voilà, comme on a pu en discuter tout à l'heure, c'est que j'ai plus tendance maintenant à me dire voilà, autant connaître ce qui nous entoure, la région, le coin. Enfin, c'est vrai, on va de l'autre bout de la terre, mais on sait même pas connaît même pas la forêt qui est à côté de chez nous, le cours d'eau, tout ça en fait on connaît pas, et on va aller découvrir. Alors oui, culturellement c'est d'autres pays, c'est d'autres cultures, d'autres paysages, mais à ce côté, ouais, pourquoi vouloir aller si loin alors qu'on connaît si peu ce qui nous entoure ? Après, voilà, je ne sais pas si c'est une immaturité non plus, parce que on a été aussi élevé dans cette culture de tout à disposition. On peut, voilà, aujourd'hui, pour 60 euros, on va à l'autre bout de la planète. Donc, voilà, c'est clair que c'est tentant, et je peux le comprendre. Et j'ai déjà aussi voyagé, et je pars en Inde cet été, donc c'est que je suis encore un peu là-dedans, mais voilà, je commence aussi un peu à réfléchir là-dessus. Et puis voilà, c'est pas non plus voyager à l'autre bout de la planète, c'est pas sans impact, tant sur le trajet que sur le tourisme qu'on va développer localement, qui va souvent à l'encontre du mode de vie des populations locales. Donc voilà un peu mon point de vue sur la question. Mais après, d'immaturité, non, je pense que c'est plus un syndrome, et un peu c'est le reflet de notre société où voilà, tout va tellement vite qu'on peut partir, voilà, aller même bosser, on va bosser, on va faire. Moi j'ai un cousin qui est mannequin, qui se dit, alors qui est très bouddhiste dans la spiritualité, qui machin, mais qui va faire un shooting à Londres et le soir se retrouve en Italie. Et donc là, en termes de moment présent et de connexion avec un temps un peu, un rapport au temps un peu naturel, n'est pas vraiment dans le truc, quoi.
Selon toi, c'est quoi la plus grande force de notre génération ?
Ah, ouais. Alors du coup, j'y ai réfléchi. Et je pense que vraiment la plus grande force, c'est que notre génération, elle est à cheval, en fait, entre deux générations. Entre l'ancienne génération qui a vécu hors de l'émergence d'Internet, hors de toute cette, informatisation de la vie, enfin, tout cet aspect-là de la société, d'hyperconnexion, de toutes ces choses-là. Donc on a eu, parce qu'on est né, Internet n'existait pas, et donc on est, voilà, on a un pied là-dedans, et en même temps on a été rapidement baigné dedans. Les jeunes, enfin, on a cette proximité avec les jeunes, et du coup pour moi on fait tampon entre les deux générations, et c'est ce qui fait notre spécificité et notre force. Et c'est ce qu'il faut utiliser. Et voilà, et moi je l'ai vu encore ce matin en discutant avec des personnes âgées, donc en tractant pour la soirée de table ronde sur le référendum d'initiative citoyenne que j'organise ce soir, de pouvoir partager comme ça des idées avec des personnes âgées et de me dire que je peux avoir des discussions avec mes élèves qui sont jeunes et puis finalement de réussir à établir des liens ou des intérêts communs, me dit que là, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, quoi.
Si tu devais créer le super-héros de notre génération, il serait comment? Aussi bien physiquement que dans ses super-pouvoirs.
Si mon super-héros, celui que je voudrais voir émerger, ça serait la personne qui trouverait le levier, le moyen qui fasse prendre aux gens conscience de la nécessité de changer notre mode de vie et notre mode de pensée. Voilà, moi je me pose beaucoup la question de. Parce que voilà, militer, bah, je suis assez confronté en fait à l'indifférence des gens ou à certaines personnes qui sont d'accord avec moi, mais alors pour impliquer, pour que les gens s'investissent, se mobilisent, oh, il y a un fossé. Vraiment, il y a un fossé. Et je le vois même au sein de Greenpeace, de mon association. Voilà, on a 200 à peu près militants, militantes sur notre groupe local. Mais concrètement, en fait, quand il faut participer à une activité, organiser une soirée, bah, en fait, sur les 200, il y a 30-40 personnes vraiment actives. Donc même les gens qui sont sensibilisés, un peu éveillés, ont du mal à s'impliquer. En salle des profs, c'est pareil. Je parle de sujets, c'est censé être des personnes qui, quand même par leur cursus, qui sont curieux, qui sont dans la transmission de savoir. Donc il y a une démarche un petit peu altruiste. Enfin, on essaie de bâtir un monde meilleur, on éduque les enfants. Et voilà, pour impliquer les gens, là, j'essaie d'organiser dans mon collège pour le 24 mai, c'est la journée de mobilisation mondiale contre bah, justement les problèmes environnementaux. Et c'est une journée donc étudiante. Donc j'ai proposé un projet sur la gestion des déchets avec une course aux déchets dans ma ville, Argenteuil. Donc voilà, pour l'instant, bah, j'ai aucune réponse. Donc voilà, et par rapport en fait à cette espèce d'inertie, s'il y avait une personne qui arrivait à trouver le levier, le curseur sur lequel agir, qui permette que les gens se disent ouais non là faut vraiment qu'on se bouge. Là ouais mon héroïne ou mon héros carrément.
Et t'arrives à l'imaginer physiquement?
Physiquement non, peu importe. Franchement, peu importe. Peut-être plus une femme, quand même. Je pense que les femmes peuvent avoir plus tendance à fédérer quand même. Et ouais, il y a quelque chose. J'ai tendance à penser un petit peu. Je sais plus trop qui disait ça, mais c'est. Ah si, c'est dans le bouquin justement des fourmis de Bernard Weber, Werber d'ailleurs, ou je sais plus comment il s'appelle, mais peu importe, qui dit que finalement, ouais, toutes les espèces en fait qui ont le plus prospéré, qui sont là depuis le plus longtemps, sont les espèces les plus féminines. À savoir les termites, les fourmis et les rats, qui sont des espèces en fait où les traits féminins en fait ont pris le dessus. Et c'est des espèces qui arrivent donc beaucoup plus à collaborer, à s'entraider. Et du coup, ouais, y a quand même cette chose. Quand même, j'ai l'impression. Après, hein, ça peut être perçu comme machiste, je sais pas peut-être, mais il y a quand même une propension un peu plus grande chez les femmes à préserver la vie que chez les hommes. Et je renvoie la chanson de Renaud qui s'appelle, qui parle de Margaret Thatcher, ou qui dit voilà, c'est les hommes qui font la guerre, c'est les hommes qui vont à la chasse, c'est du cerveau d'un homme qui est sorti la bombe nucléaire, c'est voilà, il y a quand même un truc par rapport à ça à creuser. Et je pense que ouais, les femmes sont quand même un peu plus enclins à protéger la vie. Donc ça serait plus une héroïne, je pense.
La dernière question, c'est quoi ta philosophie de vie?
Je dirais ma philosophie de vie, je dirais vivre le moment présent, profiter de chaque instant. Je pense que plus tu donnes, plus tu reçois. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente au quotidien. Mais c'est moi, je me réalise dans le fait d'aider les autres. Des fois, peut-être trop. Enfin, des fois, mon entourage me le dit. Enfin, c'est bon. Des fois, me dit, ça en devient ridicule de toujours vouloir aider. Mais en fait, non. C'est vraiment ça m'apporte, quoi. Ça m'apporte. Donc vraiment cette démarche, ouais, essayer d'être le plus altruiste possible. Profiter du moment présent et puis voilà, enfin chérir les êtres qu'on aime, tout ça, et puis voilà, et puis en fait trouver aussi l'équilibre quand même en se faisant plaisir pour finalement en fait de ne pas s'essouffler. Enfin moi c'est un petit peu le truc que je me dis, j'ai besoin aussi de ces moments de où je m'évade, où voilà, je me pose devant ma télé avec mon petit pétard et mon film, ou avec mon petit CD, et où je vais sortir danser, j'adore danser, où je vais faire un festoche. Enfin, ces moments où tu relâches, tu fais la fête, et ce qui permet aussi de tenir sur la distance pour, bah, voilà, pour militer, pour se bouger, et pour garder cette philosophie de vie. Il y a besoin un peu de ces soupapes de décompression, je pense, qui sont vraiment importantes. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout.